Marie-France, le débat sur les noms d'équipes, que ce soit professionnelles ou amateurs d'ailleurs, je sais pour être amateur de sport, ça date de plusieurs décennies. Mm-hmm. Aux États-Unis, on se pose énormément de questions sur les Redskins, sur les Blackhawks.
Les Esquimaux.
Les Indiens. Ah oui, aussi. Les Esquimaux au Canada.
Oui.
Les Séminoles. Il y a aussi les Braves d'Atlanta. Mais les Redmen de McGill, ça m'a surpris aujourd'hui.
Ouais.
L'université a décidé de retirer le nom des Redmen.
Ah, c'est toute une histoire. Ça a commencé l'automne dernier. Il y avait eu polémique. Plusieurs étudiants qui avaient souligné le caractère péjoratif envers les peuples autochtones de ce nom-là, les Redmen. Ça touche 28 équipes depuis 1920, des équipes de football, bien sûr, mais de hockey, jusqu'à des équipes d'aviron. Toutes les équipes masculines de sport de McGill portent le nom de Redmen. Et donc, on parlait de racisme, c'est insultant, c'était du racisme passif. Donc, il y a eu un référendum et 79% des étudiants ont voté, enfin, ceux qui ont voté, ont décidé à 79% que ça devait être retiré et c'est ce que la direction a décidé de faire. Il y a eu vraiment un lobby qui a été mené avec vigueur par une association autochtone. Pourquoi le nom Redmen à l'origine? C'était pas à propos des Autochtones.
Non.
C'était les Redcoats, l'uniforme des sportifs de McGill qui était rouge. Et il y avait aussi, semble-t-il, une référence aux cheveux roux des Écossais fondateurs. Mais c'était vraiment, c'est seulement dans les années 80, au moment où un logo d'Autochtones avec une coiffe, avec des plumes apparaît, que ça devient une référence directe aux Autochtones.
Mais ça a toujours été. Il y a 100 ans, là, les Redmen, c'était pour désigner la couleur du maillot.
Voilà.
Ça a toujours été rouge et blanc.
Exactement,
McGill.
Exactement. Puis, et c'est vraiment une autre manière de voir les choses qui apparaît dans les universités et qui apparaît dans le monde sportif. On s'en rend compte. Et puis même, Paul, si ça avait été à cause des Autochtones dès 1920, fallait-il en changer? Et là, la question se pose à propos de toutes les équipes dont tu parlais à l'instant. Faut-il tout débaptiser qui porte un nom autochtone? Les Redskins, les Séminoles, les Esquimaux, certains...
Les Blackhawks,
exactement. Il y en a plein. Ou alors, faut-il tout débaptiser ce qui, de près ou de loin, a eu affaire avec les Autochtones? La rue Amherst, parce que Amherst a, semble-t-il, propagé le virus de la petite vérole dans des couvertures qu'il distribuait aux Autochtones. Mmh. Les McDonald's de ce monde. Le principe vaut, le raisonnement est le même. On parle d'appropriation culturelle dans le cas des noms amérindiens. Et là, ma position n'a pas changé. Il ne faut pas toujours débaptiser. L'histoire s'apprend à travers des bornes symboliques, à travers des repères. S'il n'y en a plus, c'est qu'on efface la mémoire honteuse. C'est comme si rien n'était arrivé. On vit dans un monde ahistorique, dans un monde de licornes. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on ne choisirait pas des noms comme ça, mais est-ce qu'il faut pour autant éradiquer l'histoire? Bon, là, on n'a pas un mot à dire là-dedans. C'est une équipe privée, c'est un référendum, c'est une entreprise privée, l'Université McGill, et ils ont choisi, c'est une manière d'accommodement raisonnable, les étudiants ont choisi que c'était du racisme, donc il ne faut pas utiliser ce nom-là. Mais quelque part, c'est le triomphe de la rectitude politique. D'une certaine manière, même, je te dirais que ça nuit à la quête des Premières Nations de s'approprier un symbole qui n'était pas le leur pour se victimiser, se porter en victime. C'est vraiment un cadeau empoisonné de la part des étudiants. Mmh. On peut le voir comme ça. Gagner des points en ayant l'air de victime, c'est pas le cadeau le plus champion dans l'univers. Et puis, c'est pas étonnant de la part de l'université. Dans le cas des équipes sportives, ça pose débat. Dans le cas des Esquimaux d'Edmonton, on est en voie de changer de nom.
Ah oui,
Il y a vraiment d'autres équipes qui résistent fortement et chacun a des arguments qui vaut. Mais dans le cas de l'université, c'est pas étonnant. Il y a beaucoup de dérives communautaristes, beaucoup de ghettos dans les universités. C'est vraiment le triomphe de la victimologie, des safe space. Les universités ont déjà été un lieu de débat, de curiosité, d'ouverture. Là, on est plutôt dans un monde de rectitude, de police des comportements. Alors, voilà, les Redmen vont se trouver un nouveau nom.
Mais ça va prendre un an. Ils vont jouer oui. sans nom. Alors, j'ai proposé...
l'équipe sans nom.
J'ai proposé les sans noms ben oui. de McGill, ou c'est ben, évidemment en anglais, les No Names.
Exactement. Bon. Ça n'a pas été très bien reçu.
Non, pas très
je
bien.
Je sentais un petit fret s'installer.
Non, je sentais d'ailleurs que mon interlocuteur, oui. M. Labeau, le premier vice-principal exécutif adjoint par intérim... ne semblait pas enthousiaste.
Non, j'ai senti comme dans Astérix, quand le personnage parle, qu'il y a des glaçons en dessous du phylactère.
Pas mal ça. Mais il est là par intérim, oui. dans son titre.
Il y a une longue carte de visite. Oui.
La saison des travaux et des chantiers routiers, on en a parlé hier avec Annie Guillemette qui est allée oui. à la ville. Et c'est le cas de le dire, la ville va modérer ses transports dans
exactement.
Ses travaux.
Exactement. Oui, ils vont reporter un chantier sur deux afin de ne pas créer davantage de congestion. 2019, donc, il y aura pour 766 millions investis par la ville dans les chantiers, la petite moitié sur les rues et les routes et la grosse moitié dans les travaux d'aqueduc et d'égout. Les grands chantiers, on les connaît, Sainte-Catherine-Ouest, la rue Saint-Paul, la rue Jarry, la Plaza Saint-Hubert, qui est complètement éventrée en ce moment, la rue Papineau. En plus, pour ajouter tous les chantiers provinciaux et fédéraux, la fin du pont Champlain, Turcot, le REM, et tous les chantiers privés qui poussent partout aux quatre coins de la ville. Sous Denis Coderre, souviens-toi, il avait dit que ça prendrait 10 ans pour rattraper le déficit des infrastructures. Et là, on veut faire ça en 5 ans, mais en coupant en deux. Est-ce que ça veut dire que ça va prendre, au fond, on fait 4 fois moins de travaux? Ça me paraît vraiment un peu étrange comme raisonnement, mais la question étant, jusqu'où pouvons-nous en prendre, comme Montréalais, mais comme gens qui habitent dans les couronnes et qui viennent à Montréal, et comment pouvons-nous en prendre? Je me pose des questions. La culture a-t-elle changé avec le fait qu'on reporte des travaux? Est-ce que, tu le sais, la voirie ouvre une rue, la referme, puis Énergir ou Hydro-Québec arrive et réouvre à nouveau? Il y a de
oui, mais là, on va avoir l'escouade des chantiers
oui, mais c'est
pour
très,
surveiller ça.
C'est très vague. C'est très vague ce que va faire l'escouade des chantiers. Mmh. On parle aussi d'une charte des chantiers qui va obliger à des mesures de mitigation efficaces, mais l'efficacité... on est connu pour notre anarchie, notre désorganisation qui joue sur les nerfs, mais qui joue aussi sur l'économie. On sait ce qui est arrivé à la rue Saint-Laurent, on sait ce qui est arrivé à la rue Saint-Denis. Et cette charte des chantiers, c'est vraiment des souhaits, c'est des vœux pieux, on part de loin. La signalisation est complètement chaotique dans les chantiers de cette ville-là. Il faut que les chantiers de la ville soient coordonnés à ceux, par exemple, du MTQ, parce que ce n'est pas le cas en ce moment. Dans le cas des chantiers privés, c'est totalement inexistant. Et puis, est-ce que la charte va pouvoir intervenir en ce qui concerne les privés? Il y a une arrogance en ce moment à Montréal de la part des chantiers privés au centre-ville, dans Griffintown. On s'arroge souvent une voie, voire une rue complète. La rue La Gauchetière, tout près de la place Bonaventure, un jour sur deux, elle est fermée oui. à la hauteur de Bleury. Elle disparaît. Le privé s'en approprie. On est en train de construire un building. Ce ne sont pas des travaux de la ville. Carrément, ils décident de fermer une rue, comme si c'était une rue privée. Bref, on a vraiment beaucoup à faire encore. Et il va falloir, pour terminer... Il va falloir que Montréal se penche, que la ville de Montréal et la mairesse se penchent sur le visage de Montréal. Parce que là, pour l'instant, on a encore pour 5 ans minimum de travaux et ça va durer beaucoup plus longtemps. Montréal perd des résidents, puis là, c'est pas à cause de l'argent puis des maisons qui coûtent trop cher, mais c'est par exaspération. Alors, on perd des commerces, on perd des entreprises. Qu'est-ce qu'on veut comme visage de cette ville-là dans 5 ans, dans 10 ans?
Et tu as oublié de dire en terminant qu'on perd patience aussi.
On perd surtout
on perd des
patience.
Commerces, on perd des rues, on perd si, mais on perd patience.
Exactement.
Merci Marie-France et bon week-end.
Certainement dans les cônes oranges.